Tchatch, le ravi, Radio Grenouille.
Bonjour, c'est l'heure de la Grande Tchatch, le rendez-vous politique du journal Le Ravi, en partenariat avec Radio Grenouille. Bonjour Michel Guéraud.
Bonjour Rafi Hamal.
Avec nous pour cette émission, Sarah Swahili, porte-parole nationale de Jean-Luc Mélenchon, sportive de haut niveau et candidate aux législatives dans la 3e circonscription des Bouches-du-Rhône, sous l'étiquette des Insoumis. Bonjour Sarah Swahili.
Bonjour.
Vous l'avez compris, on va parler des présidentielles, de la gauche et des Insoumis, mais aussi des législatives et des territoires. Mais auparavant, Sarah Swahili, une tradition dans cette émission, c'est le portrait de l'invité, et c'est Michel Guéraud qui s'y colle.
Pour renouveler la politique, il n'y a pas que les Golden Boy ambitieux ou les héritières xénophobes. Sarah Swahili, à vos côtés, Emmanuel Macron a des allures de vieux tromblon d'un monde à bout de souffle et Marine Le Pen, plus que jamais, semble radoter des haines recuites et avariées. Française au sang mêlant, des origines comoriennes et marocaines, vous êtes de Frévalon, cité des quartiers nord marseillais, aussi paupérisée que stigmatisée. Vous n'avez que 24 ans, mais votre CV est déjà flamboyant et rien n'y inspire l'abattement. Quoi que vous entrepreniez, vous cognez fort et dur. Vous êtes championne de France de karaté contact et vous êtes devenue en 2015 championne du monde de kickboxing. Du ring à la politique, il n'y avait qu'un pas. Et pour cette présidentielle, rien d'étonnant que vous ayez été séduite par un autre athlète des sports de combat, Jean-Luc Mélenchon. Comme lui, vous avez d'abord adhéré, pour vos 18 ans, au PS dans une des teams aile gauche de la vieille maison, l'équipe de la sénatrice Marie-Noëlle Lindemann. Vous avez même été candidate aux dernières municipales à Marseille sur les listes de Patrick Minucci, puis au régional aux côtés de Christophe Castaner. Mais ce dernier a échoué à vous ubériser pour marcher avec Macron. Et vous avez rejoint les rangs des Insoumis en devenant là aussi illico, l'une de leurs championnes porte-parole nationale. La seule personnalité locale à s'adresser à la foule sur le Vieux-Port, c'était vous. Et vous avez invité Mélenchon à rencontrer l'équipe féminine dans votre salle d'entraînement à Frévalon. Cela dit, 3 élections et déjà aussi 3 défaites à votre palmarès. Mais vous n'êtes pas du genre à baisser les bras. Fille d'une mère célibataire qui faisait des ménages pour s'en sortir, entre 2 combats de boxe ou politique, vous faites aussi des études. Vous êtes déjà titulaire d'un master en sciences sociales et préparez une thèse de doctorat en droit. Son sujet, la lutte. La lutte,
oui,
bien entendu.
Forcément.
Mais c'est la lutte sur la cyber-contrefaçon des œuvres de l'esprit. Vous expliquez qu'en politique, comme dans le sport ou à la fac, il ne faut jamais rien lâcher. Vous serez donc aussi candidate insoumise dans le 3e secteur de Marseille, ville où, contre tout pronostic, Mélenchon est arrivé en tête au premier tour. Ce sera dans la 3e circonscription, celle qui inclut les 13e et 14e arrondissements, ceux où l'extrême droite a remporté la mairie de secteur dirigée par Stéphane Ravier. Et là aussi, vous comptez bien créer la surprise.
Sarah Swahili, un commentaire à ce portrait à la sauce Ravi, bien sûr.
J'ai pas un master en sciences sociales,
ah,
master en sciences criminelles.
Eh bien voilà, ça fait de suite plus sérieux.
Et ma mère n'a pas arrêté de faire des ménages, elle continue.
Très bien.
Voilà, c'est précisé. Comme l'a dit Michel Guéraud dans son introduction, on arrive après le premier tour. Et votre candidat Jean-Luc Mélenchon, avec un score, on pourrait qualifier d'historique, est arrivé 4e, a frôlé de peu la 3e place et le podium. Comment vous expliquez ce résultat, certains appellent une petite victoire?
Une victoire, tout simplement, parce que ça a été le travail de plus d'un an de construction d'un programme. On a construit un programme avec des propositions de tous citoyens qui voulaient construire avec nous ce programme. Après, on l'a chiffré, on est allé vers les citoyens un par un. Tractage, marché, porte à porte, ce qui est pas facile. Aller sur le terrain, c'est vraiment quelque chose de difficile, pour le plus difficile d'ailleurs pour un militant. Et nous l'avons fait, et je pense que ce score-là est dû à notre travail sur le terrain, parce qu'on n'avait pas forcément une place très très grande au début médiatique, donc c'est pas ça qui nous a mis haut dans les sondages, mais le terrain a parlé et nous on le sentait sur le terrain. Quand on était à 11% des sondages, on savait très bien qu'on n'était pas à 11% parce qu'on était au contact des vrais citoyens, entre guillemets, et on savait très bien que voilà, le jour du premier tour, ça allait se ressentir.
Alors comment vous expliquez qu'entre 2012, où on a le même candidat Jean-Luc Mélenchon, sa campagne aujourd'hui y trouvait plus d'écho que celle de 2012, et les thématiques sont les mêmes, les problématiques qui sont traitées sont les mêmes, les heures et les malheurs qu'on rencontre les gens sont également les mêmes. Pourquoi aujourd'hui un tel écho et pas en 2012 ?
Alors déjà le programme de 2012, Jean-Luc Mélenchon le dit lui-même, a été fait un peu à la va-vite. Il le dit, le reconnaît. Il n'a pas été fait de manière très sérieuse, contrairement à l'avenir en commun qu'on a construit ensemble depuis plus d'un an. J'ai été aussi responsable d'un livret, le livret sport. J'ai contribué aussi au livret quartier populaire avec Pascal Troadec. Et je pense que là, sincèrement, ça a été un travail plus construit, plus réfléchi. Et surtout, les citoyens étaient mis au centre de ce programme, contrairement à 2012. Ensuite, les problématiques, certes, sont peut-être les mêmes, mais tout a changé. En 2012, on a voté pour M. Hollande, un peu contre M. Sarkozy. Et aujourd'hui, en 2017, on cherchait un peu quel serait le leader qui de la France qui aurait pu nous sortir un peu de cette crise que les politiciens depuis plusieurs années nous ont mis dedans. Donc il y a beaucoup de choses qui ont été différentes dans cette campagne, dont le programme, la base.
Autre différence, peut-être une stratégie, on va dire, à l'espagnol, à la Podemos, avec des partis politiques classiques tenus à distance, hein, clairement, de la campagne. Alors Mélenchon était soutenu par le Parti communiste, par exemple, mais ce n'était plus un cartel d'organisation comme lors des dernières présidentielles. Là, cette fois-ci, c'était un mouvement qui a tenu comme ça. Enfin, on voyait surtout des drapeaux bleu, blanc, rouge dans les rassemblements et pas des drapeaux d'organisation. Ça a compté pour vous, cette prise de distance avec les appareils politiques?
C'est ce qui a fait que moi-même, personnellement, donc je peux parler pour moi, c'est ce qui a fait que j'ai tout de suite été attirée par le mouvement des Insoumis, parce que voilà, c'était pas un parti politique, il n'y avait pas d'accord de parti, tout ce que voilà aujourd'hui je déteste. J'ai été au Parti Socialiste et j'ai vu ce que c'était que des petits accords entre amis ou entre ennemis, soi-disant.
Il y a quand même une structure pyramidale. Chez les Insoumis, il y a une verticalité du pouvoir. Il y a Jean-Luc Mélenchon qui dicte, et puis c'est pas horizontal comme mode de fonctionnement.
Sincèrement, il dicte pas grand-chose. il dictait en tout cas pas grand-chose, parce que déjà le programme, il a pas construit tout seul. Il a appris lui aussi à apprendre. Le programme L'Avenir en Commun, parce qu'il a pas contribué à tout. Il avait son avis, bien évidemment, mais quand la majorité s'exprimait, ben il faisait acte et il jouait le porte-parole de ces Insoumis et de ce programme. Il y a eu, oui, bien évidemment, des porte-paroles, mais il y avait pas forcément
16,
de structure.
Hein, c'est ça,
Non, beaucoup moins.
Beaucoup moins. À un moment, ce chiffre avait été avancé, mais ça a été, vous étiez combien, leur porte-parole national?
Une dizaine,
d'accord.
Oui. Et, bon, on n'est pas loin de vos 16. Oui. donc, non, il n'y avait pas réellement de structure. C'est vraiment un mouvement citoyen, et c'est ce qui m'a attiré, et c'est ce qui a attiré beaucoup, beaucoup de sympathisants insoumis. Et je pense que si c'était un parti comme les autres, comme en 2012, où il était derrière la bannière du Front de Gauche, ça aurait pas eu le même écho. Je pense que lui aussi, il a fait un petit bilan de 2012, et il a su renouveler et ouvrir son mouvement à tout citoyen qui se disait prêt à gouverner derrière un programme commun.
Alors, on va revenir sur cette campagne, sur ce qui a marché, sur ce qui a pas marché, et comment vous vous projetez. Mais on est dans un moment particulier, vous avez perdu, donc vous n'êtes pas qualifié, on reprend un vocabulaire sportif, hein. Il y a une problématique, est-ce qu'il faut ou pas appeler à battre le Front National, et peut-être même plus, c'est-à-dire appeler à voter Macron? Il y a une consultation en cours des Insoumis, c'est le choix qui a été fait. Ce choix est contesté par vos ennemis politiques, mais aussi très débattu en interne. Votre position là-dessus, les enjeux?
Alors, en tant que porte-parole de National de la France Insoumise, je dois expliquer ce qui se passe en ce moment. C'est une consultation des Insoumis qui ont appuyé la candidature de Jean-Luc Mélenchon sur la plateforme. Donc, on va les consulter. Ils ont plusieurs choix. Ils ont le choix soit d'appeler à voter blanc, soit d'appeler à voter Emmanuel Macron, ou soit de s'abstenir. Il n'y a absolument pas de choix pour voter pour Marine Le Pen. Je pense que ça ne surprend personne. Nous allons vraiment, et personnellement moi-même, faire tout notre possible et militer pour qu'il n'y ait pas une seule voix pour Marine Le Pen. Maintenant, il y a un choix qui va être fait par les Insoumis. Je pense qu'il n'y a pas de contradiction avec la campagne que Mélenchon a fait depuis plus d'un an, dans le sens où à chaque fois, il a voulu consulter les Insoumis. Par exemple, dans le programme, on parlait d'une assemblée constituante. Même si, on a perdu, mais s'il avait été président le 7 mai, il aurait appelé les citoyens à réfléchir sur la possibilité par référendum de réunir une assemblée constituante. Donc là, il appelait les citoyens à choisir. Pareil pour la construction de cette nouvelle constituant, de cette nouvelle constitution, pardon, il appelait encore une fois le peuple à choisir. Pareil pour le plan B de l'Europe, qu'on va parler. Voilà, on disait que Mélenchon était contre l'Europe et qu'il voulait sortir de l'Europe. Non, il voulait mettre en place un plan A. Et si malheureusement le plan A qu'il avait mis en œuvre ne satisfaisait pas les Français, il les appelait encore à choisir leur avenir et quel était leur avenir au sein de l'Union européenne. Donc à chaque fois, il a demandé à ce que le peuple soit consulté. Donc là, je vois pas pourquoi il ne continuerait pas dans cette ligne. Après, je peux comprendre que certains soit un peu déçu qu'il n'ait pas dit directement ce qu'il pensait, mais il faut se rappeler que Jean-Luc Mélenchon n'est pas tout nouveau quand même, je suis honnête, un tout nouveau élu. Il a pendant 30 ans combattu contre le Front National. En 2012, il est même allé contre Marine Le Pen pour les législatives. Il n'avait pas peur d'y aller. Il a toujours combattu le Front National. Donc qu'on lui fasse un procès comme ça, de vouloir faire augmenter le Front National, je trouve que c'est pas juste et je trouve que c'est très très hypocrite. Et je pense qu'aujourd'hui, il est toujours dans sa ligne et consulter les insoumis, je pense que c'est pas insulter la démocratie.
En même temps, la consultation, il l'a pas faite quand il a déclaré clairement et tout seul sa candidature. Il n'a pas eu besoin de consulter les gens. Ça, c'était un acte qu'il a fait quasi personnel.
Un peu, parce qu'il a demandé à ce qu'on appuie sa candidature.
Après avoir déclaré,
mais s'il avait eu que deux soutiens, je peux vous assurer que je pense qu'il aurait réfléchi à deux fois.
Alors ça, c'est pour la méthode, mais sur le fond, malgré tout, c'est pas anodin. C'est-à-dire que le même Jean-Luc Mélenchon, la fois où Jean-Marie Le Pen s'était retrouvé au second tour d'une présidentielle, avait appelé à tout faire et à voter pour minimiser au maximum ce parti qui sortait pour lui du jeu du champ républicain. Les choses ont changé. Est-ce qu'on peut se permettre comme ça face à cette menace pour la démocratie, de prendre ce temps, de faire dans la nuance. Quel est votre regard là-dessus?
Je pense que oui, il faut se permettre de discuter. Je pense que c'est parce que on ne discute pas de tous les sujets et parce qu'on ne laisse pas les citoyens parler et discuter entre eux et parler de leur frustration, que le Front National aujourd'hui est à ce niveau-là. Donc je pense qu'il faut parler, discuter et je pense que c'est la meilleure arme pour lutter contre le Front National. Ils souhaitent que les insoumis qui sont aujourd'hui déçus puissent exprimer peut-être aussi leur colère, mais je suis persuadée qu'il y aura une infime, mais très 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 infime partie des personnes qui ont voté pour Mélenchon, qui vont peut-être par désespoir voter pour Marine Le Pen, mais je dis à ces citoyens que c'est vraiment pas la solution, bien au contraire, et ils ne feront entre guillemets péter rien du tout en mettant Marine Le Pen au pouvoir, bien
au contraire. Les pieds sont nombreux. Jean-Marie Le Pen a félicité Mélenchon pour sa campagne.
C'est normal, il est malin. On ne peut pas lui reprocher cela.
Mais cette ambiguïté, elle ne joue pas en votre défaveur?
Il n'y a aucune ambiguïté parce que mardi, Jean-Luc Mélenchon va prendre acte du vote. Il n'y a aucune ambiguïté dans le sens où il n'y a pas un bouton entre guillemets je vote Marine Le Pen, c'est exclu mais depuis le début, et je comprends même pas pourquoi on nous fait un procès d'intention. Comme je vous l'ai dit, il suffit de regarder le parcours de Jean-Luc Mélenchon pour comprendre que ça a été un des premiers et des plus anciens à lutter contre le Front National. Et aujourd'hui, il y aura
sur
aucune
le fond,
voie pour elle.
Est-ce que Macron, Le Pen, c'est bonnet blanc, blanc bonnet?
C'est différent, c'est différent. Marine Le Pen, pour moi, selon moi, c'est vraiment tout ce que je peux pas supporter, c'est-à-dire la stigmatisation des uns et des autres, plus de clash entre les Français, alors qu'aujourd'hui on a besoin d'unité. Emmanuel Macron, c'est beaucoup plus de libéralisme et encore plus de crise, hein, et encore les mêmes qui vont entre guillemets trinquer, et notamment les pauvres. Voilà, c'est deux conceptions différentes. Je peux pas dire que c'est la même chose, non, pas du tout. Et comme quand on nous dit que Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen, c'est la même chose, je peux vous dire qu'à chaque fois qu'on dit ça, ça me met un poignard dans le cœur, parce que par exemple quand on parle de la retraite, enfin ils ont fait un tract où ils disent que par exemple la retraite à 60 ans, nous aussi, Insoumis, on l'a proposé. Je rappelle que en 2010, quand on manifestait contre la loi de Sarkozy qui rallongeait la retraite, elle insultait les grévistes. Donc c'est bien facile d'oublier comme ça le passé et l'histoire, et j'appelle les Français à ne pas avoir Alzheimer.
D'accord. Est-ce que vous avez eu des remontées au niveau des désaffections déjà, ou est-ce que c'est un peu trop tôt pour voir un peu les gens qui ont décidé de... Parce que vous avez un électorat qui est assez volatile quand même, vous n'avez pas, comme vous l'avez dit, vous n'avez pas de parti politique, c'est un mouvement. Est-ce que vous avez déjà des échos de gens qui se sont un petit peu détournés, s'il y en a qui se sont détournés?
Détournés du mouvement des Insoumis? Bien au contraire, je pense pas que ça soit un électorat volatile, parce que ça a été un électorat qui a réfléchi sur un programme, un électorat qui est parti chercher l'information, un électorat qui n'était pas attaché à un parti. Donc bien au contraire, je pense que c'est un électorat qui est bien plus fort que ceux des partis politiques traditionnels.
Le libéralisme de Macron, c'est ce qu'il y a de plus rédhibitoire pour vous?
Oui, je pense. C'est aussi le mépris des personnes qui travaillent au quotidien et qui ont que 700 euros alors qu'ils travaillent toute la journée. Je pense qu'il est en dehors des réalités, malheureusement. Mais après, voilà, il fait partie aussi de... Il avait le droit de représenter une partie de la population. La population s'est exprimée. Je pense qu'aussi, il y a eu beaucoup d'électeurs qui votaient pas pour Emmanuel Macron, mais surtout contre Marine Le Pen. Et il a aussi fait face à un média qui disait que qu'Emmanuel Macron était le rempart, et le vote utile, c'était Emmanuel Macron. Donc aujourd'hui, je pense que s'il est arrivé premier, c'est aussi grâce à certains médias.
Dernier mot sur la problématique du second tour. À titre personnel, vous allez faire quoi dans le bureau de vote?
À titre personnel, je vais lutter comme je lutte chaque jour pour qu'il n'y ait pas une seule voix pour Marine Le Pen. Je l'ai exprimé dès le premier tour. On m'a questionné le soir même. Moi, voilà, je suis porte-parole, mais je suis aussi une citoyenne, et j'ai le droit de m'exprimer comme tous les insoumis. Et moi, j'appelle à ce qu'on fasse vraiment un barrage, j'aime pas trop ce mot, mais qu'on vote pour une France beaucoup plus belle que celle qu'elle veut nous montrer, et je vais lutter pour qu'il n'y ait pas une seule voix pour elle.
Donc vous votez pour Macron?
Ah mais ça, maintenant c'est à lui d'aller vers moi et d'aller vers tous ceux qui veulent aller vers lui.
Non mais expliquez-nous comment on peut faire concrètement barrage à Marine Le Pen, parce qu'on va pas parler par litote pendant toute l'émission. Hein. Comment on peut faire barrage à Marine Le Pen et ne pas voter pour Macron?
Ben, son vote blanc. On vote pour Emmanuel Macron.
Vous hésitez à titre personnel encore sur ces deux options?
Oui, je réfléchis jusqu'au 7 mai.
Le vote blanc n'est pas pris en compte dans la mécanique électorale?
Malheureusement, mais c'était une de nos propositions, faire en sorte que le vote blanc soit comptabilisé comme le vote obligatoire. Donc, personnellement, je suis sincèrement contre l'abstention. On ne peut pas avoir été pour un programme qui s'appelle l'avenir devenir en commun où on proposait la prise en compte du vote blanc, l'obligation de voter et demander aux insoumis de s'abstenir. Même si je comprends qu'ils aient mal, j'ai aussi mal, mais je suis aussi cohérente avec le programme que j'ai défendu en tant que porte-parole nationale. Et on a tout fait, on a fait une campagne de plus d'un an pour aller chercher les abstentionnistes. C'est pas pour que nous, demain, insoumis, soyons des abstentionnistes. Donc, il faut aller voter, c'est un droit. Beaucoup de personnes se sont battues pour qu'on ait ce droit. Il y a encore certains pays où, voilà, ils meurent pour avoir ce droit. Donc, non, s'il vous plaît, allez voter parce que c'est une chance et je pense que certains ne se rendent pas compte de cette chance qu'on a ici en France.
Donc, allez voter Macron.
Allez voter Macron, c'est si vous le voulez, ou allez voter blanc, si vous le voulez. C'est à vous de décider.
Avec mathématiquement le risque de voir
Marine
Le
Pen.
Non,
mais ce n'est pas une question de mathématiques.
Les chiffres sont têtus, oui.
Non, mais c'est si Marine Le Pen aujourd'hui arrive au premier tour, ce que je ne pense pas, ce ne sera pas de la faute des insoumis qui se sont battus pour aller chercher ses électeurs. Aujourd'hui, si elle est à 1,7% devant nous, je pense que c'est aussi grâce aux insoumis. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui votaient pour Marine Le Pen par désespoir des partis politiques et qui est revenue vers nous. Donc on ne peut pas nous faire ce procès d'intention alors que ça fait plus d'un an qu'on va chercher ces électeurs-là et que personne n'est allé vers eux. Donc je pense qu'il n'y a pas de procès à nous faire.
Alors, un score important, 7 millions de voix, oui. 20%, une gauche en miettes, une gauche classique, un PS réduit à pas grand-chose, la droite républicaine aussi très en difficulté, le paysage politique français est totalement décomposé et va se recomposer avec ce score-là. Ce mouvement-là a une grande responsabilité, vous avez 24 ans, vous êtes porte-parole nationale. Grande responsabilité sur vos épaules, mais comment vous réfléchissez à ça? Est-ce que vous avez déjà les insoumis, en ce moment j'imagine que vous discutez, que vous projetez, mais comment vous envisagez la suite?
Ben, on envisage bien évidemment la suite parce qu'on souhaite que ce flambeau et que le flambeau qu'on a allumé ne s'éteigne pas. Donc on est obligé de réfléchir pour la suite pour que ce mouvement perdure. Et si ce mouvement veut perdurer, il va falloir bien évidemment reconstruire le paysage politique et notamment la gauche. Aujourd'hui, on a bien vu avec le score du Parti Socialiste que la gauche, ce n'était pas le Parti Socialiste, en tout cas tel qu'il est. Aujourd'hui, nous aspirons à faire en sorte que ce mouvement perdure avec toutes les forces de gauche. Quand je dis gauche, ça s'appelle aussi Europe Écologie Les Verts qui, par tractation aussi a voulu rallier monsieur Hamon et ça appelle aussi les socialistes et les sympathisants socialistes à nous rejoindre pour faire en sorte que ce mouvement citoyen de gauche perdure et je pense qu'il perdurera si on arrive à rassembler tout le monde.
Ça va être quoi finalement ce front de gauche que vous imaginez après les élections? Ça va être un parti ou c'est un mouvement qui va se réunir, qui va se coaguler que pour les rendez-vous électoraux?
Non, je pense que ça va être un mouvement qui, bien évidemment, sera là, en tout cas on l'espère, pour toutes les échéances électorales, mais aussi un mouvement qui va continuer, comme il l'a fait depuis plus d'un an, à réfléchir sur les questions de société, sur les problèmes que les Français ont au quotidien. Et ça va être un mouvement très citoyen, où le citoyen aura la parole et construira l'avenir qu'il souhaite pour son pays. Donc on va continuer... Comme on l'a fait depuis plus d'un an.
Alors vous avez cité Hamon, beaucoup de commentateurs ont constaté qu'il y avait quand même de grandes convergences programmatiques entre le programme des Insoumis et celui de cette tendance du Parti Socialiste qui avait emporté par surprise aussi la primaire. Oui. Il n'y a pas eu quelque chose, un rendez-vous manqué. En tout cas, si on projette, si on ne regarde pas en arrière, mais si on projette en avant, est-ce qu'il faut qu'il y ait des rapprochements entre...
ces gens qui ont voté à la primaire socialiste pour la 6e République, pour des choses que vous défendez vous aussi. Est-ce qu'il faut se retrouver, y compris très vite, là, aux législatives?
Bien évidemment, je pense qu'il faut se retrouver autour d'un programme. Il faut arrêter avec les guerres d'ego et les guerres des partis qui ne profitent qu'à une petite poignée. Je pense que si les citoyens qui ont été pour le programme de monsieur Hamon se retrouvent aussi dans le programme de Mélenchon, je les appelle à venir discuter avec nous pour faire
ça,
en sorte...
Mais ça, c'est un appel à vous rallier, c'est un ralliement.
À nous rallier, en fait, à faire vraiment un mouvement plus large et ils prendront part à la même échelle que nous. Il n'y aura pas un chef et un sous-chef. Non, c'est vraiment sur un pied d'égalité et c'est ce qui fait notre force aujourd'hui. Il n'y a pas un chef qui dirige et les militants qui exécutent.
Le pied d'égalité n'a pas eu lieu avant les élections. La rencontre n'a pas eu lieu puisqu'il y a eu là clairement deux chefs de deux partis, Jean-Luc Mélenchon pour les Insoumis et Benoît Hamon pour le Parti Socialiste.
Il y a eu deux porte-parole. Jean-Luc Mélenchon a été le porte-parole de cette France insoumise et M. Hamon a été le porte-parole du Parti Socialiste ou en tout cas de ce qu'il en restait. Et c'est normal qu'on soit pas à 40 000 pour discuter. Mais maintenant, je vais aussi expliquer que je pense que si M. Hamon n'a pas pu, entre guillemets, se retirer en faveur de Mélenchon, c'est aussi une question aussi, ce qu'on oublie de dire, financière. Pour le Parti Socialiste ne pas se présenter, c'est aussi un coût financier et c'est aussi la mort financièrement d'un parti. Donc il y avait aussi ça qui était en jeu. Mais malheureusement aussi, je pense qu'il n'avait pas les cartes en main pour décider pour le Parti Socialiste parce que lui-même n'avait pas le Parti Socialiste avec lui à ses côtés. On l'a bien vu avec tous les ralliements dont Manuel Valls, dont le président de la République pour Emmanuel Macron. On a bien vu qu'en fait, le candidat du Parti Socialiste, c'était Emmanuel Macron et pas M. Hamon.
Michel ?
Alors, il y a un autre parti, un autre vieux parti qui soutient Mélenchon, mais qui se plaint en ce moment très fort, déjà pendant la campagne, mais en ce moment en particulier, c'est le Parti communiste. Et Pierre Laurent, son leader, se plaint de ne pas avoir eu de nouvelles de Jean-Luc Mélenchon depuis dimanche soir. Et puis il y a des inquiétudes, c'est-à-dire que il y a un risque, on plaisante, mais il y a un risque peut-être, est-ce qu'il y a un risque pour vous d'émiettement justement de l'offre politique à gauche pour ces législatives dans cette période post-présidentielle avec des candidats insoumis et dans les mêmes circonscriptions à côté de candidats communistes, à côté de candidats écologistes, etc., etc. Et peut-être des défaites derrière.
Un mot d'abord sur Pierre Laurent et le silence de Jean-Luc Mélenchon.
Alors, Pierre Laurent, Mélenchon, et puis derrière la question de la concurrence à gauche lors du prochain rendez-vous électoral.
Alors, Pierre Laurent, je pense qu'il fait quand même un procès d'intention aussi à Monsieur Mélenchon parce qu'il répond au téléphone à tous ceux qui l'appellent, donc c'est un peu facile de dire ça. Maintenant, il faut aussi comprendre que Jean-Luc Mélenchon souhaite quand même prendre une ou deux journées pour encaisser quand même le coup qu'on perd. On a quand même on est déçus et il faut se remettre peut-être parfois en question ou pas, mais il faut un temps où on est un peu seul pour réfléchir. Mais bien évidemment que Jean-Luc Mélenchon lui parle depuis le début à monsieur le représentant du Parti communiste, mais non, il lui a toujours parlé, il continuera à lui parler, donc il s'inquiète pas.
Il y a de l'ego dans ce silence de Jean-Luc Mélenchon ?
Non, aucun ego. Sincèrement, non. Je ne le connaissais pas avant, j'ai appris à le connaître et ce n'est pas quelqu'un qui a un ego, non.
On a du mal à croire ça.
Oui, parce que c'est l'image que malheureusement, médiatiquement, parfois, on lui donne. Et moi, je ne le connaissais pas avant. J'avais juste l'image que les médias nous donnaient de Jean-Luc Mélenchon. Donc, je vais faire une confidence. J'avais une appréhension quand je l'ai rencontré. Et la première fois que je l'ai vu, c'est lui qui a eu peur de moi. Donc, je peux vous dire que ça m'a tout de suite détendu et j'ai vu qu'en fait c'était un personnage, une personnalité très humaine et qui n'avait absolument aucun ego.
La Grande Tchatche, l'émission du Ravi sur Radio Grenouille.
La Grande Tchatche, le Ravi sur Radio Grenouille avec nous, Sarah Swahili pour les Insoumis et future candidate pour les législatives dans la troisième circonscription des Bouches-du-Rhône.
Michel, c'est la deuxième partie de la question. On y arrive. C'est législative. Est-ce qu'il n'y a pas un risque de défaite, un risque de déception? 20%, c'est très bien. Mais si tout le monde se retrouve divisé, comment ça va se passer dans ces circonscriptions? Est-ce qu'il n'y a pas un risque d'élimination à nouveau et de déception?
C'est clair. Il ne faut vraiment pas qu'on soit désunis. Le Front National est à nos portes. À Marseille, on a réussi à être arrivés, nous, insoumis premiers, mais il ne faut pas oublier qu'ils sont deuxièmes, pas très loin derrière nous. Donc la menace est sur notre dos et il ne faut pas s'endormir et il faut surtout s'unir. Moi, j'appelle à ce qu'on soit unis. Si je peux parler de ma circonscription, moi j'attends pas qu'il y ait un accord national, et il y en aura un, c'est obligatoire, il y en aura un
avec le Parti communiste,
avec le Parti communiste, mais aussi avec Europe Écologie Les Verts, et avec...
Vous en êtes sûr?
Mais en tout cas, on discute depuis plusieurs mois pour cela, on sait pas, les discussions ont commencé depuis bien plus longtemps que dimanche. Hein. Ça fait un moment qu'on discute de cela. Et on discutera avec tous les forces de gauche qui souhaitent un avenir en commun.
Alors vous sortez du champ, par exemple, prenons la troisième circonscription, vous sortez du champ le Parti Socialiste, votre ancien parti, il n'y a pas si longtemps que ça, qui a sa candidate, hein, proche de la députée sortante, Sylvie Andrieux.
Alors moi, dans ma circonscription, je suis...
C'était vous qui avez été d'ailleurs au départ nommé le Parti Socialiste. Alors là, il y avait un petit peu un cafouillage,
oui,
c'est ça,
une
confusion. Qu'est-ce qui s'est passé alors?
Ce qui s'est passé, c'est que moi, j'ai rejoint les Insoumis, mais mon mouvement voulait que je les représente. Mais je l'ai déjà fait au régional et je suis quelqu'un d'honnête et je ne peux pas continuer dans un parti qui ne me correspond plus. Donc je l'ai fait une fois, mais pas deux. Voilà. Et donc, d'où le cafouillage. Mais vous savez, parfois, le problème avec le Parti Socialiste, parfois, c'est qu'il ne discute pas avec la personne elle-même.
Ça se passe comme ça à Marseille?
Oui, c'était marrant. On parlait de moi dans les journaux. Sarah Soilihi, candidate. Mais on n'est jamais venu me parler, en fait. On ne m'a jamais demandé si je voulais. On ne m'a jamais rien demandé. Donc, moi, après aussi, je ne vais pas vous mentir, je voyais tout ça de loin et ça me passait au-dessus de la tête et je ne me suis pas battue pour dire non, c'est pas vrai. Enfin, j'en avais juste rien à faire. En fait.
Un mot peut-être, on revient sur la troisième après.
Oui, alors sur
ce
la...
divorce avec... Non, mais parlons du divorce avec le Parti Socialiste. Effectivement, ça s'est mal passé avec Christophe Castaner qui est devenu, en plus aujourd'hui, l'un des emblèmes de la Macronie. Hein.
Oui.
C'est-à-dire
que
c'est
oui.
le premier allié.
Il
fait la fête, il était à la rotonde aussi, je crois qu'il s'est amusé.
Oui, il a même sauté le jour du meeting. Il m'a fait, ouais, il était très très marrant.
D'où est venu le
désaccord? Il y a un désaccord depuis le début.
Dès le départ.
Depuis le début, j'ai été sur les listes des régionales au Parti Socialiste, mais je représentais l'aile gauche du Parti Socialiste. Et dans le Parti Socialiste, il y a plusieurs nuances, plusieurs mouvements. Et lui faisait partie de ce mouvement plus libéral, celui de Monsieur Valls et d'Emmanuel Macron, parce que ça a été un de ses soutiens aussi quand il était ministre.
Rapporteur de la loi Macron.
Rapporteur de la loi Macron, pendant que moi j'étais aussi au Parti Socialiste et que je manifestais contre cette loi et j'ai manifesté corps et âme contre toutes les lois, non seulement Macron, mais la loi du travail, la loi El Khomri. Donc ces désaccords, ils y étaient depuis le début, tout simplement. Et aujourd'hui, quand j'ai été candidate pour les élections régionales, je pensais qu'il y allait avoir une candidature commune avec le Front de Gauche parce que il y a eu un bilan commun. Voilà, je pensais que ça allait être surtout qu'on avait en face de nous Marion Maréchal Le Pen. Depuis plusieurs élections, le Front National était à 40%. Il y avait vraiment un risque et surtout, il y avait un bilan commun. Donc, jusqu'à la fin, j'ai cru qu'on allait faire une liste commune. Donc, c'est pour ça aussi que j'ai souhaité et que j'ai accepté ce rôle de représenter mon mouvement et le mouvement de l'aile gauche. Malheureusement, ça s'est pas fait, mais j'étais engagée et quand je commence quelque chose, je le finis.
Alors aujourd'hui, comme le disait Michel tout à l'heure, Mélenchon arrive en tête à Marseille, ça c'est une surprise. Un point devant Marine Le Pen,
On n'a pas parlé du coup, j'ai pas
de
terminé
la troisième,
sur...
Oui.
Non, pas la troisième.
On va
sur
revenir
les...
sur la troisième, largement.
Sur, sur la composition et sur les accords avec le Parti communiste ou les Verts.
Allez-y.
On discute avec eux. Moi, à Marseille et dans les Bouches-du-Rhône, je discute avec eux. Je discute avec Europe Écologie Les Verts depuis un moment ma circonscription, mais pour tout.
Prenons
tout
le 13. Normalement, il a été annoncé déjà pendant la présidentielle que, par exemple, à Martigues, où se présente Pierre Dharréville, qui est le premier fédéral du Parti communiste, il y avait un candidat insoumis investi contre lui au premier tour.
Il y a eu des candidats de partout. Voilà.
C'est
ça a
pour
été
démarrer une négociation, pour... c'est musclé. C'est...
Dans chaque circonscription marseillaise, il y a un candidat insoumis et un candidat communiste.
Exactement. Et pareil pour les communistes. En fait, je ne comprends pas.
C'est une discussion qui démarre dans l'affrontement.
Oui, mais je ne comprends pas pourquoi on ne dit pas la même chose aux communistes, en fait. Parce que eux aussi.
Si, nous aussi.
Ah, mais très bien. Vous faites bien votre boulot, ouais. Alors. Parce que des deux côtés, il y a eu des candidats. Ils avaient aussi le choix de candidater sous la bannière de la France insoumise et ils ne l'ont pas fait. Certains l'ont fait. Il y a des communistes qui ont été investis et qui sont sous la bannière de la France insoumise. Mais pour être candidat France insoumise, il fallait signer une charte. Cette charte, beaucoup de communistes n'ont pas voulu la signer et c'est pour ça qu'aujourd'hui...
Qu'est-ce qu'il y avait
retrouve,
à l'intérieur de cette charte quel était le point rédhibitoire pour les communistes?
Ah, j'en sais rien. Je sais pas, je pense peut-être ils avaient peur de s'effacer au profit d'un mouvement citoyen et du coup ils avaient peut-être peur que leur parti n'existe plus. Mais je pense qu'aujourd'hui il va falloir aller regarder plus loin que son propre parti et c'est ce que j'aspire. J'aspire à ce qu'on se réunisse tous je discute notamment dans ma circonscription. J'ai fait une lettre que j'ai envoyée au Parti communiste, à Ensemble, au Parti de gauche, à Europe Écologie Les Verts. J'attends pas qu'il y ait un accord national, parce que je sais qu'il y aura un accord national, mais j'ai pas besoin d'attendre à ce qu'il y ait un accord national pour aller moi vers tous les partis de gauche qui sont sur ma circonscription, une circonscription où le Front National a gagné la mairie et où Monsieur Ravier est maire. Donc je pense que chaque citoyen qui est engagé d'aller vers l'autre, moi j'ai fait ce pas-là.
À Martigues, par exemple, député sortant communiste, la logique, ce serait peut-être que ça soit un candidat communiste à nouveau. Ça vous paraît, on est dans le vraisemblable ou ça vous paraît non, pas évident, il faut en discuter aussi.
Ça me paraît évident, oui et non. Il faut voir quel est le programme qu'il va protéger à l'Assemblée nationale. Quelle est sa vision de la France? Quelle est sa vision de l'avenir? Donc oui, s'il a un programme
qui va, vous connaissez le programme du Parti communiste, c'est sensiblement le même. À part il y a des questions effectivement qui divergent, le nucléaire par exemple, on voulait en sortir.
Notamment. Mais pour Martigues, il y a des discussions qui sont engagées depuis plusieurs semaines. Et ils discutent aussi. En fait, ce qu'il y a eu aussi comme problème, c'est que de l'autre côté, les communistes allaient aussi négocier avec le Parti socialiste. Donc c'est compliqué qu'on peut pas avoir tout le temps les deux. Donc c'est soit on va faire une alliance avec le Parti socialiste, soit on fait une alliance avec les insoumis. Mais
alors justement, une autre question qui intéresse Marseille, hein, et le Parti socialiste, il est pluriel. Il y a des socialistes qui ont rallié Macron dès le premier tour,
beaucoup.
Mais par exemple, il y a un Patrick Mennucci qui s'était placé derrière Hamon. Vous le connaissez bien parce que vous étiez sur ses listes aussi au municipal.
Je le connais bien.
Peut-être pas.
Non.
Vous étiez derrière en fait Caselli, qui était une des listes derrière la majorité. Par exemple, Patrick Mennucci, alors c'est une circonscription où Mélenchon a fait, je crois, 41%
et quelques, carton,
très haut.
Très très haut, oui.
Donc là, il s'agit de se rassembler aussi, ou alors c'est hors champ. Est-ce que le PS est un partenaire de discussion pour vous, y compris à l'échelle marseillaise?
Il va falloir d'abord se rassembler avec les communistes, d'abord, dans un premier temps. Après, voir ce que Europe Écologie Les Verts va faire.
En fait, vous avez peur, vous avez été traumatisé par 2012 quand les communistes ont aussi négocié avec les socialistes. Vous ne voulez plus de ça?
Ils l'ont fait et ils continuent à le faire. C'est pas que je veux pas ça. Au contraire, si on peut avoir vraiment un mouvement, un grand, grand mouvement de gauche avec toutes les forces de gauche dans le Parti socialiste, mais avec un nouveau projet, avec une nouvelle structure, j'en serais la première heureuse. Mais aujourd'hui, malheureusement, je vois pas le Parti socialiste se remettre en question. S'il se remet en question, mais ça serait vraiment formidable.
Donc c'est un Patrick Mennucci dans un secteur où Jean-Luc Mélenchon fait 41%. Vous tend un peu la main en quelque sorte en disant faisons une liste commune, panachons la liste.
Pour quel projet ?
Pour les législatives, ils sont que deux en même temps.
Oui, voilà, c'est, il y a juste un suppléant. Ouais.
Mais pour quel projet ? Quel est le projet qu'il va défendre ? Est-ce que c'est le projet d'Emmanuel Macron ? Est-ce que c'est le projet du Parti Socialiste ? Mais le Parti Socialiste, je ne comprends même pas quel est son projet, parce que la plupart ont rallié Emmanuel Macron, donc ça veut dire qu'il va défendre les lois d'Emmanuel Macron comme il a fait quand il était député à l'Assemblée nationale. Hein. Il ne faut pas oublier qu'il a voté pour ces lois. Donc, quel est son projet ? Est-ce qu'il va continuer sur la même ligne ou est-ce qu'il va diamétralement s'opposer à ce qu'il a voté depuis 5 ans ?
Donc, ouais, pour parler franc, enfin, c'est mal parti. Là, en deux mois, on imaginait des rapprochements avec le Parti Socialiste. Ça vous paraît quand même possible s'il y avait une clarification de ce côté-là ?
S'il y a une clarification, s'il y a une honnêteté, ce que je demande aux élus, c'est d'être honnête. Ils sont élus pour représenter les citoyens et pas pour eux-mêmes. Donc, ils peuvent être honnêtes. Je comprends pas cette malhonnêteté. Donc, s'ils sont honnêtes, s'ils nous disent oui, voilà, on a fait le bilan des 5 ans. On veut plus suivre
ça, c'est des pudeurs d'appareil, de dirigeants d'appareil. L'électeur, lui, ce qu'il voit, c'est une dynamique et il va pas comprendre forcément pourquoi on se rassemble pas, sachant quand même que pour les législatives, la barrière est à 12,5% des inscrits s'il y a une triangulaire. Donc, et dans le secteur où vous êtes, il y aura probablement un triangulaire. Donc, c'est compliqué.
Très compliqué et je peux comprendre les électeurs qui comprennent pas pourquoi il n'y ait pas de rapprochement. Moi, je milite pour qu'il y ait vraiment ce rapprochement. Je souhaite et je fais un appel au Parti communiste pour qu'on s'allie, qu'on n'aille pas les uns contre les autres. J'appelle aussi Europe Écologie Les Verts à faire de même, mais aussi les socialistes et les sympathisants socialistes qui en ont marre de cette ligne politique qui a été suivi par Monsieur Hollande depuis 5 ans. Donc j'appelle chaque citoyen à faire le bilan et à nous rejoindre.
Alors il y a une problématique aussi, enfin c'est celle de l'expérience aussi, c'est-à-dire qu'on est dans un système. Alors en ce moment, on a l'impression que les Français veulent du renouvellement, hein, quel qu'il soit, y compris Macron finalement a essayé d'incarner ça, même peut-être on peut en questionner, mais en tout cas il a été aussi porté par une envie de renouvellement. Les Insoumis à Marseille et en France, il y a beaucoup de gens comme vous qui n'ont pas des parcours politiques, qui ne sont pas très capés, qui n'ont pas des mandats, etc. Est-ce qu'on peut, une présidentielle portée par un tribun comme Mélenchon, on arrive à être identifié, on arrive à passer, est-ce que là vous pensez être assez outillé pour fédérer du monde et entraîner des gens ? À Marseille, tous vos candidats sont quasiment... sans mandat, je crois. Ils sont tous sans mandat, c'est ça ? Ou je me trompe ?
Dans ma circonscription ?
Non, sur Marseille, sur l'ensemble des...
Non, il y a des députés sortants.
Des Insoumis ?
Non, c'est la question. Ouais. C'est-à-dire, les candidats potentiels des Insoumis sont des gens qui n'ont pas de mandat actuellement.
Exactement.
C'est une force, mais ça peut être une faiblesse dans une logique électorale.
Non, je pense que c'est une force. Une force dans le sens où les insoumis qui ont été investis n'ont qu'un seul but, c'est de représenter les citoyens. En tout cas, c'est le mien. Je fais pas de la politique pour avoir un boulot. Je pense que ma famille s'est assez sacrifiée pour que je fasse de longues études. J'ai pas besoin d'être députée pour demain nourrir ma famille. Alors qu'aujourd'hui, la plupart des élus veulent et continuent à faire de la politique, parfois juste pour avoir encore leur indemnité, et ils oublient pourquoi ils ont été élus.
Je ne l'ai pas dit, vous voudriez être avocate, c'est ça c'est le...
Et maître de conférence, je suis chargée d'enseignement à la fac de droit, c'est déjà le cas, j'enseigne le droit pénal aux étudiants. Je pense que c'est une force et je pense qu'on a besoin de renouvellement. Après, oui, je peux comprendre que qu'on ait peur aussi de ce renouvellement. Parfois, on demande le renouvellement, mais on se demande ce qu'on va avoir en retour. Donc, c'est à nous d'aller vers les citoyens, d'expliquer notre projet, d'expliquer qui on est. Je pense qu'il faut expliquer aussi qui on est.
Même en expliquant que finalement, vous vous présentez seul, plus avec les alliés communistes, peut arriver.
Moi, je ne conçois pas que dans ma circonscription, j'aille seule. Ça, c'est...
Même s'il n'y a pas d'accord au niveau national.
Franchement, qu'il y ait un accord ou pas au niveau national, moi, je me bats au niveau de ma circonscription, au niveau local, pour qu'il y ait cet accord. Et je ne lâcherai rien, je ne démordrai pas. Il ne faut pas qu'on soit divisé. J'ai envoyé une lettre, j'ai fait le premier pas et je ferai le deuxième pas. Parce que le Front National est vraiment à nos portes dans ces quartiers. Et moi, je n'ai aucun ego. Franchement, je ferai 1, 2, 3, 4, 5 pas. Il n'y a pas de souci jusqu'à ce qu'on soit tous unis.
Donc, pour résumer, vous appelez à voter Macron. Et quelles que soient les décisions du niveau national, vous alliez aux communistes.
Alors, j'ai jamais dit que je voterais pour Emmanuel Macron. J'ai dit que j'allais réfléchir jusqu'au 7 mai. C'est mon droit en tant que citoyenne. Et je pense que je ferais pas mon boulot de bonne citoyenne si j'attendais pas le 7 mai et si j'avais pas toute cette phase de réflexion pour regarder aussi le programme et voir ce que Emmanuel Macron va nous dire. Donc non, je réfléchis, mais il est certain que je vais faire campagne pour qu'il n'y ait pas une seule voix pour Marine Le Pen.
Joël Gombin, qui est un sociologue, politologue, qu'on a invité à votre place dans ce studio, chez nos confrères de Mars Actu, avant le premier tour, a fait une belle analyse. Bon, il s'est planté, c'est pas grave, c'est pas très confraternel. Rappelant, mais il avait raison de le dire, que Marseille désormais votait comme la France. Il a regardé les résultats des dernières présidentielles et on constatait effectivement qu'il y avait une banalisation, une normalisation du vote. Mais là, raté, c'est-à-dire que Marseille a placé très largement en tête Mélenchon et puis en deuxième position Marine Le Pen. Alors si on regarde dans le détail, c'est plus compliqué parce que la ville est très divisée géographiquement. Il y a des circonscriptions où ça vote... LR, Fillon. Mais ça, quel est votre regard sur Marseille, à la fois cet ancrage du Front National et puis cette émergence, ce vote insoumis qui fait de vous le premier parti, pour l'instant, de la ville.
Juste avant, en précisant pour les auditeurs que Mélenchon arrive à 24,8, il gagne, comme je disais tout à l'heure, 11 points par rapport à 2012, avec des pointes à 41% dans le centre-ville, et il dépasse souvent les 30% dans le 3e arrondissement, un des quartiers, un des secteurs les plus paupérisés de France, le 14e et le 15e arrondissement, les quartiers nord.
Une ville dirigée par LR, pour ceux qui s'en souviennent pas.
Oui.
Donc, qu'est-ce qui se passe à Marseille, là, pour vous?
C'est vrai que...
Il y a deux questions. Il y a le FN et puis il y a les insoumis.
J'étais fière de me réveiller dans ma ville en me disant que ma ville était insoumise. Aujourd'hui, Jean-Luc Mélenchon et la France insoumise a su parler à ces Marseillais qui vivent au quotidien des difficultés. Il est parti aussi chercher les jeunes. Ce qu'on oublie de dire, c'est que ce n'est pas Emmanuel Macron ni Marine Le Pen qui a attiré les jeunes, mais c'est Jean-Luc Mélenchon. 5 millions de jeunes ont voté dans les 7 millions pour Jean-Luc Mélenchon. Donc on est le premier parti qui a eu des électeurs de très jeunes, quoi. Donc la jeunesse a voté pour Jean-Luc Mélenchon et je les remercie vraiment pour ça. Ensuite, pour le Front National à Marseille, ça fait quelques années, même plusieurs années qu'on voit cette percée, mais aujourd'hui on a vu que la France insoumise était le rempart contre le Front National et ses idées, parce qu'on va vers cet électorat-là qui est déçu, qui est en colère.
Quand vous dites cet électorat-là, c'est-à-dire où on peut comprendre également que vous partagez à peu près le même électorat avec Marine Le Pen ?
Non, je comprends ceux qui, par désespoir, vont voter Marine Le Pen. Aujourd'hui, dans ma circonscription, le 13-14, c'est un maire Front National qui a gagné. Et il n'a pas pu réussir à être maire s'il n'avait pas eu des électeurs qui étaient avant sympathisants de gauche. Ils ont voté pour lui par désespoir, par colère, parce que pendant 5 ans, ils avaient une mairie qui ne les satisfaisait pas. Donc je peux comprendre cette tristesse et ce ras-le-bol. Et c'est pour ça que nous, Insoumis, on avait aussi le rôle d'aller vers eux, d'aller leur expliquer qu'on avait un projet et qu'ils pouvaient nous faire confiance, en tout cas nous donner la chance de réaliser notre projet. Et ça les a convaincus, la preuve, on est devant le Front National. Donc aujourd'hui, le rempart contre le Front National, ce n'est pas Emmanuel Macron, ce n'est pas LR, ce n'est pas ou le Parti Socialiste, c'est vraiment ce mouvement citoyen.
Alors certains médias, les grands médias, disent non, vous nourrissez au contraire le populisme, vous avez le même slogan que Marine Le Pen, vous faites de la démagogie, vous promettez des choses irréalisables.
Très bien. On a été le seul programme qui a été chiffré, le seul programme qui a été expliqué. On n'est jamais venu nous dire « Ah non, mais votre chiffrage, il n'est pas bon » ou nous donner d'autres chiffrages ou nous dire que c'était… Voilà. Je pense que eux ont fait le jeu de Marine Le Pen en lui donnant cette place médiatique qu'elle ne méritait pas. Aujourd'hui, il aurait fallu plus se concentrer sur les programmes et arrêter de nous faire un procès d'intention dans le sens où on est pendant plus d'un an allé vers ces électeurs-là qui étaient déçus. Et c'est les politiques depuis plus de 30 ans qui ont fait que le Front National aujourd'hui est parfois dans des secteurs 40% et dans des élections à 40%. Donc on peut pas nous reprocher.
30 ans, c'est exactement la carrière politique de Jean-Luc Mélenchon qui était avant au Parti Socialiste.
Exactement, hein. Exactement. Et donc depuis 30 ans, il combat le Front National, donc jusqu'à aller à Nembouma, hein, la terre de Marine Le Pen. Donc c'est un combattant qui n'a pas peur et qui n'a aucun ego et qui va combattre pas pour lui, mais pour ses électeurs et pour ces personnes qui souffrent.
Michel ?
Mélenchon, on en parle. Est-ce qu'il va jouer toujours dans ce mouvement des Insoumis un rôle dans les semaines qui arrivent pendant cette campagne législative pour commencer ?
Parce que c'est maintenant qu'il faut mettre les mains dans le cambouis, comme vous avez dit.
Une fois qu'il aura repris des
discussions avec le Parti communiste. Et puis surtout, il y a une date butoir, c'est quand même le 15 mai pour le dépôt des candidatures aux législatives. C'est très court.
C'est très court, oui.
Est-ce que, en tout cas, vous souhaiteriez qu'il joue ce rôle-là ?
Oui, je le souhaite et il va le faire. Il va le jouer. Il va pas quand même nous abandonner tous les électeurs qui lui ont fait confiance aujourd'hui. Bien au contraire. Je pensais pas que j'allais avoir encore plus de hargne à aller voir les citoyens, les convaincre, en sachant qu'aujourd'hui je pense qu'Emmanuel Macron sera élu et notre but, c'est d'être le rempart contre ce libéralisme. Et je pense qu'aujourd'hui, si on veut que le mouvement et que les idées des Insoumis ne s'éteignent pas, il va falloir le plus de députés possible. Et bien évidemment que Jean-Luc Mélenchon sera à nos côtés.
Si vous en avez beaucoup de députés, vous risquez de faire une cohabitation avec Monsieur Macron. Et s'il vous propose de venir gouverner avec lui, quelle sera la réponse ?
Gouverner avec lui, avec son programme ? Non mais c'est hors de question. C'était une blague ?
Non, pas du tout, non.
Excusez-moi alors. Non, non, je ne pense pas. Après, je sais.
Parce qu'il ratisse large.
Ah oui, mais il va avoir. Je pense qu'il va. Après, je sais pas. Je suis pas Madame Irma, mais je pense qu'il va y avoir une cohabitation. Mais il est très malin, Emmanuel Macron. Pour lui, il n'appellera pas ça une cohabitation. Il appellera ça la nouvelle façon de gouverner avec toutes les forces de gauche et de droite. Donc, le mot cohabitation ne sortira jamais de sa bouche. Pour lui, il nous dira que c'est la nouvelle façon de gouverner. Donc, non. Il est très malin, mais oui, si on veut vraiment une cohabitation, il faut des Insoumis. Si c'est une cohabitation avec le Parti Socialiste et les Républicains, ça ne sera pas une cohabitation.
C'est plus large que ça, ça va jusqu'à monsieur Robert Hue.
Oui, malheureusement.
Mélenchon, toujours, qui va peut-être être candidat aux législatives pour devenir député, participer au concert, à cette opposition dont vous appelez de vos voeux, non, oui
Pas forcément.
Pas forcément.
On n'a pas besoin de. Il a jamais eu besoin d'être député pour représenter et pour parler pour les insoumis. Donc non, c'est pas
parce
nécessaire.
Parce que là, s'il se présente à Marseille, par exemple, il est élu dans certaines circonscriptions, c'est fait, non? C'est pas envisagé.
Pas que sur Marseille. Hein.
Oui, ailleurs aussi, mais on parle de Marseille.
Non, sincèrement, je ne pense pas que ce. Pour l'instant, en tout cas, moi, il m'a jamais dit qu'il voulait être député. Donc, il avait qu'un seul but, celle d'être le porte-parole de la France et être président, dernier président de la Ve République. C'était son seul souhait pour l'instant.
Il lui manque quand même un ancrage. Aux dernières municipales, certains avaient évoqué son nom. Marseille pour Mélenchon, Mélenchon pour Marseille. Est-ce qu'on peut supposer qu'après, aux prochaines municipales, dans une ville qu'il a élue en tête, M. Mélenchon vienne?
Ce qui est marrant, c'est qu'il y a quelques mois, on disait aussi qu'Emmanuel Macron allait venir à Marseille. Donc, tous les jours, on va nous donner un nom. Donc, on verra.
Marseille n'a pas besoin de parachutage, quel qu'il soit, même de.
C'est Marseille est rempli de personnes et qui ont envie et qui ont les talents pour continuer à tenir ce flambeau.
Comme je le disais donc, les législatives, on arrive presque au terme de cette émission.
Ah, déjà ?
Presque, oui. Les législatives d'un troisième circonscription, dans un quartier, dans un secteur, pardon, paupérisé, dans un secteur qui allie multiples difficultés, trafic de drogue, chômage. Quels seraient les dossiers ou les lois susceptibles ou que vous porteriez à l'Assemblée nationale, des lois fortes ?
Moi, je mettrai tout en œuvre pour que, entre guillemets, les lois qu'on a mis en place dans notre programme L'Avenir en Commun soient votées. Maintenant, je vais pas vous mentir, il nous faut le plus de députés insoumis possible, et pour cela, il va falloir, comme on l'a dit tout à l'heure, assembler. C'est sûr que si je vais toute seule face au Front National et face aux Républicains, je ne vais pas réussir à pouvoir continuer à parler pour ces insoumis. Donc, j'appelle de mes voeux à ce qu'on se rassemble autour d'un projet. Et ce projet-là, je veux le construire avec les communistes, avec Europe Écologie Les Verts, avec les citoyens qui sont pas encartés. Donc, mon projet, j'ai une base qui est qui a été le programme que j'ai défendu, L'Avenir en Commun. Mais maintenant, je peux pas demander à ce qu'on se rassemble autour de moi et leur imposer aussi toutes les thématiques et toutes les propositions de loi que je souhaiterais défendre.
Il y en a une en particulier, peut-être une loi qui vous tient à cœur. Il y a eu, comme je le disais tout à l'heure, c'est un quartier où il y a énormément de trafic de drogue. Il y a eu, il y a quelque temps de ça, l'appel de Marseille pour la légalisation du cannabis. Plus de 150 personnalités qui appellent à la légalisation contrôler. Ce genre de loi vous paraît intéressante?
Pour la légalisation du cannabis?
Légalisation contrôlée.
Contrôlée. Moi, j'ai toujours, ce qui a été beau aussi dans cette France Insoumise, c'est qu'il y a eu beaucoup de proposition, et moi je ne faisais pas partie de ceux qui étaient convaincus que c'est en légalisant le cannabis qu'on va éradiquer le trafic de drogue. Je pense que peut-être que j'ai été minoritaire, mais je suis pas hypocrite. J'ai toujours suivi ma ligne, parce que j'ai cette force là, c'est que je suis tenue par rien et par personne. Et moi aujourd'hui, je suis pas convaincue que la légalisation du cannabis va éradiquer le trafic de stupéfiants. Je suis entourée de personnes qui malheureusement sont dans ce trafic-là, et je peux vous dire que c'est une économie qui ne s'arrêtera pas juste parce qu'on va légaliser le cannabis. Je pense que c'est un problème beaucoup plus fort que cela, et surtout je parlerai aussi en termes de santé publique. Me dire que je vais dans un concert à l'air libre et que tout le monde fume du cannabis, j'étais sur une ville où la légalisation est là, et je peux vous dire que, pas en France, hein, mais dans un pays, et je peux vous dire que je me sentais prise au piège parce que j'étais, entre guillemets, obligée de, d'inhaler cette drogue-là.
C'était pas avant le championnat du monde.
Non, c'était pas avant. J'étais contre. Mais aujourd'hui, je suis pas convaincue et je pense que la légalisation ne va pas éradiquer, malheureusement, le trafic de stupéfiants.
Rapidement, l'émission arrive à son terme. Mm-hmm. Dans le 13-14, le Front National semble avoir résister encore mieux, enfin même, enfin il a une audience qui est même supérieure à celle qu'il peut avoir déjà, qui est très élevée dans le reste des quartiers nord-marseillais. On peut vraiment de façon très rapide, selon vous, malgré tout, dégager le Front National des quartiers nord.
J'ai choisi ce secteur. J'ai grandi aussi à la Castelnaule, dans le 16e arrondissement. Et j'aurais pu vouloir aussi me battre pour les citoyens du 15-16. Mais je savais pertinemment que dans le 13-14, et notamment dans le 13e arrondissement, le Front National avait un certain ancrage, malheureusement. Et je ne me suis pas trompée. Aujourd'hui, Jean-Luc Mélenchon, dans le 13e arrondissement, arrive malheureusement deuxième. J'ai choisi ce secteur parce que je voulais me battre pour qu'il n'y ait plus cet enracinement et pour rappeler à ses électeurs qu'est-ce que le Front National. J'aurais pu choisir un secteur beaucoup plus facile comme le centre-ville, mais non, je suis une combattante et jusqu'au bout je me battrai contre le Front National et pour les électeurs et pour leur avenir et l'avenir de mon pays.
Michel Guéroux, un mot peut-être sur la radio qui nous accueille, Radio Grenouille.
Exactement, Radio Grenouille a besoin d'argent et c'est le moment de, après avoir fait votre renouveler votre abonnement au Ravi, évidemment.
Forcément.
Faites un don à Radio Grenouille. Voilà, c'est en ligne. Vous allez sur le site de la Grenouille et cette radio utile pour le débat démocratique à Marseille et au-delà a besoin de vous.
Une radio qui nous accueillera dès le mois prochain avec un tout autre invité, Sarah Swahili. Bon courage pour la suite.
Merci et merci à Radio Grenouille.
Bye.